les portes de la connaissance. Une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué. Et bonjour, bonjour, bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Aude Radio, la radio des Hautes-Garonne, dans les portes de la connaissance. Alors aujourd'hui, on a un invité de marque, on a un invité qui vient de Toulouse, qui nous vient de Toulouse, de la Cité Spatiale exactement. Il s'agit d'Olivier Sanguy, qui est responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace. Alors on va parler de la conquête spatiale, on va parler de l'ISS, on va aller faire un voyage dans la fameuse station spatiale européenne, voir un petit peu ce qui s'y passe, voir ce que nos chers astronautes, spationautes et cosmonautes font, là-haut dans l'univers. Et on parlera un petit peu de l'actualité spatiale, c'est-à-dire voir ce qu'on peut aller faire sur la Lune, si on veut installer des bases sur la Lune, voir ce qu'on peut aller faire sur Mars, si on doit aller faire un voyage sur Mars. On va faire un grand bond. On avait fait une émission avec Olivier Sanguy il y a maintenant de ça 3 ans et demi. On l'avait invité et on avait fait une émission sur le premier pas sur la Lune. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est vieux, ça remonte à 3 ans et demi. Et aujourd'hui, on va faire la suite. Alors Olivier, bonjour.
Bonjour.
Alors Olivier, d'abord, présentez-vous un petit peu, qui êtes-vous exactement à la Cité de l'Espace ?
Eh bien, je suis, on va dire en titre un peu ronflant, responsable de l'actualité spatiale, c'est-à-dire que la Cité de l'Espace a une mission de vulgarisation de ce qui se passe dans l'espace. Et une des façons de faire cette vulgarisation, c'est de suivre l'actualité, et y compris de permettre à tout le monde de suivre l'actualité en ligne sur le site web de la Cité de l'Espace, donc cité-espace.com. Il y a un volet actualité, il y a des articles, et donc avec un collègue, nous rédigeons des articles pour que tout le monde puisse suivre, avec des mots simples, l'actualité spatiale au jour le jour, quasiment.
D'accord. Alors, on va parler de l'ISS. On va parler des astronautes, des spationautes, des cosmonautes, des taïkonautes aussi, puisque je crois qu'il y a des Asiatiques qui sont invités. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'émission ? Parce qu'on avait fait une émission avec vous sur le premier pas de l'homme sur la Lune, en 1969. Et on avait vu un petit peu l'actualité spatiale de ces années-là. Et aujourd'hui, on va attaquer le présent, c'est-à-dire les missions spatiales dans le présent avec nos chers spationautes. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur depuis combien de temps existe l'ISS ? Depuis combien de temps elle existe ?
L'ISS a fêté ses 25 ans d'occupation permanente, c'est-à-dire depuis maintenant 25 ans, vous avez toujours eu un équipage à bord de la Station Spatiale Internationale sans interruption. Au départ, c'était 3 personnes, il y a eu un petit moment, ça a été 2, et maintenant c'est 7. Donc la Station Spatiale Internationale, c'est une station qui est menée, comme le nom indique, internationale. Il y a 5 agences spatiales, il y a la NASA, l'agence spatiale russe Roscosmos, l'agence spatiale européenne, l'agence spatiale japonaise, la JAXA, et l'agence spatiale canadienne. Chacun a apporté, on va dire, un morceau, et en fonction de la taille du morceau, on a un pourcentage d'utilisation de cette station. Sans surprise, c'est les Américains et les Russes qui ont la plus grosse part, l'Europe a environ 8%, et donc dans cette station, vous avez des astronautes essentiellement de ces 5 agences spatiales. En ce moment, vous avez Sophie Adnaud, qui est française, mais qui est astronaute de l'Agence spatiale européenne. Au passage, on ne doit pas dire spationaute pour Sophie Adnaud, parce qu'elle est une astronaute, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, ça a un corps des astronautes, et astronaute, c'est un mot français, contrairement à ce qu'on croit, beaucoup de gens disent « Ah, c'est un mot américain, il ne faut pas l'utiliser », pas du tout. Astronaute, astronautique, astronauticien, tout ça, ça a été inventé par des Français avant même qu'il y ait le premier homme dans l'espace. Voilà. Ça, donc, vous avez la Station Spatiale Internationale, et vous avez une autre station, qu'on oublie parfois, qui est la Station Spatiale Chinoise, qui est indépendante, et donc, dans cette station, vous avez quasiment en permanence, maintenant depuis quelques années, 3 astronautes chinois. C'est la station Tiangong 3 ou Tiangong tout court, ça dépend comment on l'appelle, c'est un peu flou cette histoire-là. Mais donc, vous avez ces 2 stations, et peut-être que dans le futur, il y aura d'autres stations. L'Inde a un projet de programme de vol habité, c'est-à-dire que l'Inde va devenir le quatrième pays capable d'envoyer des astronautes dans l'espace par lui-même avant l'Europe, et ils ont l'ambition de faire leur propre station spatiale. Et quand l'ISS, la Station Spatiale Internationale, sera terminée, environ vers 2030, des stations spatiales privées pourraient prendre le relais, et la Russie enverra peut-être sa propre station spatiale. Donc on risque de passer d'une station spatiale internationale à des stations spatiales nationales.
D'accord. Alors, dans cette station, qu'est-ce qu'on y fait exactement dans la station spatiale? Parce que on sait que bon, les occupants font de la médecine, des recherches médicales, étudient le corps humain et le comportement du corps humain dans l'espace. Qu'est-ce qu'on y fait exactement?
Alors, on y fait de la science. Alors, vous avez cité une grande partie de cette science qui est de la science médicale. La science médicale a deux grands volets. L'étude du corps humain dans l'espace, ça c'est pour la préparation à long terme des vols, bon, d'abord des vols habités autour de la Terre, voir comment le corps réagit, parce qu'on n'a pas encore tout à fait tout compris, même si on a les grandes lignes, et aussi comment il peut réagir sur des vols de plus longue durée, ça c'est clairement pour préparer les missions lunaires et bien plus tard les missions martiennes. Mais dans ce volet médical, il y a un volet aussi qui nous concerne, c'est-à-dire on peut faire là-haut des expériences qu'on ne peut pas faire sur Terre. C'est, on va dire, c'est l'élément central de la Station Spatiale Internationale en tant que laboratoire. Parce que là-haut, on est en impesanteur exactement. Alors pas parce que la station est loin de la Terre, pas du tout, c'est parce qu'elle est en chute libre permanente en fait. Et donc, quand on fait une expérience sur Terre, vous ne faites pas une expérience sur ce que vous constatez. Vous faites une expérience sur ce que vous constatez écrasé par la gravité terrestre. Là-haut, on peut faire la même expérience, mais on a enlevé la gravité terrestre, puisqu'en chute libre, c'est comme si on était en impesanteur. Et il y a des tas de choses qui réagissent différemment, notamment certaines molécules chimiques et certains métabolismes du corps humain. Et en comparant ce qui se passe sur Terre et ce qui se passe en haut, eh bien on peut mieux comprendre la physiologie. Donc il y a des études sur le système cardiaque, sur les cancers, etc., qui progressent. Mais il y a aussi la physique fondamentale. On fait pas mal de physique fondamentale à bord de l'ISS. On étudie la combustion, la fusion des métaux, etc. Et d'autres expériences parfois très compliquées. Moi-même, quand je lis le résumé, je me dis « oulala, c'est quoi ce truc ?» Donc pour donner une idée, chaque jour, en permanence dans l'ISS, il y a 200 expériences scientifiques en cours. Certaines sont plus ou moins automatisées, d'autres demandent beaucoup de participation des astronautes. Donc les 7 personnes qui sont à bord de la Station Spatiale Internationale, en gros, ce sont des laborantins. Et leur deuxième grande activité, c'est entretenir la station, parce que il faut l'entretenir. Et la troisième activité importante, il ne faut pas l'oublier, c'est entretenir leur santé. Pour garder une bonne santé, il faut qu'ils fassent 2 heures de sport chaque jour. Parce que vu qu'ils sont en impesanteur, leurs muscles et leur squelette, ce n'est pas sollicité comme ici sur Terre. Si vous voulez, par rapport à un astronaute, même si vous êtes assis là en train d'écouter la radio, vous faites du sport par rapport à un astronaute. Donc c'est pour ça que les astronautes doivent s'astreindre à 2 heures de sport chaque jour.
D'accord. Alors est-ce qu'on ne prépare pas le corps humain un petit peu à une expédition beaucoup plus lointaine pour justement préparer nos chers occupants, les spationautes, les cosmonautes et les taïkonautes, etc. Est-ce qu'on justement on ne les prépare pas petit à petit à des voyages beaucoup plus longs dans l'espace en faisant justement des missions de plus en plus longues dans l'espace?
Oui, tout à fait. C'est un des aspects du volet de la recherche médicale, pas le seul, hein, parce qu'il y a de la recherche qui est dirigée vers nous, terriens, clairement. Mais c'est vrai qu'un des aspects, c'est de voir comment le corps humain s'adapte à des vols très longs. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on pourrait dire, c'est bon maintenant, 6 mois autour de la Terre, on connaît, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On va prendre le cas d'une mission martienne. Pour aller vers Mars, à l'heure actuelle, c'est 6 à 8 mois de voyage. C'est 6 à 8 mois de retour. Et sur Mars, sauf si on fait un voyage où on va rester 15 jours, planter un drapeau, faire des jolis discours, ramasser 2-3 cailloux et rentrer, il faut probablement rester 1 à 2 ans terrestre sur Mars. Il y a une inconnue là-dedans, c'est comment le corps humain réagit après 8 mois de voyage. On commence à maintenant à le comprendre, mais il faut voir que les vols spatiaux, il y en a très peu par rapport, par exemple, à prendre l'avion. Donc, il faut avoir beaucoup de données, donc des hommes, des femmes, et cumuler les données pour être sûr de ce qu'on fait. Parce qu'un des risques, c'est vous arrivez après 8 mois et vous avez des altérations du comportement qu'on voit très peu, mais qui peuvent être décisives quand on doit prendre des décisions rapides sous le stress. Parce qu'imaginez, vous arrivez sur Mars, l'arrivée sur Mars ne se déroule pas comme prévu, parce qu'en spatial, on essaye de fermer toutes les portes des inconnus, et il faut que la personne soit complètement en capacité de prendre une décision difficile et rapide. Et donc, il y a pas mal d'expériences qui consistent à voir si la vision, l'ouïe et même la prise de décision, voir si tout ça ne s'est pas altéré au bout de 6 à 8 mois dans l'espace. Pour l'instant, on se rend compte que c'est qu'on y arrive, mais il faut en être certain, parce que ce serait quand même dommage de faire une mission vers Mars, d'investir, alors même si, ça on pourra en parler, pour un spatial ne détourne pas autant d'argent que ce qu'on veut le dire, il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, le spatial coûte pas cher en fait, mais ce serait quand même dommage de monter une mission sur Mars et qu'il y ait un gros problème parce qu'on n'a pas fait attention au facteur humain et qu'on ne s'est pas rendu compte qu'un humain, après 8 mois passés dans l'espace, ben, quand il doit faire une opération si complexe que se poser sur Mars, il n'a plus les mêmes capacités que lorsqu'il est parti. Donc ça fait partie de ça. Et aussi, on veut que les astronautes reviennent en bonne santé. On ne veut pas des astronautes qui reviennent après d'une mission martienne de 2 ou 3 ans, qui reviennent avec une santé extrêmement altérée. Ce n'est pas éthique. Donc c'est pour ça qu'il y a une partie de l'étude, notamment d'étudier les radiations. Ça servira aussi sur la Lune. Hein. Le taux de radiation pris lors d'une mission lunaire est plus élevé que pour une mission station spatiale internationale. Pour donner une idée, par exemple, aux personnes qui nous écoutent, une mission dans une station spatiale internationale, c'est typiquement 6 à 8 mois. Il y a eu des missions d'un an. Mais par exemple, pour la Lune, on n'envisage pas pour le moment de dépasser 2 mois. Et la différence, elle est due au fait que la Lune est en dehors du champ magnétique de la Terre. Elle n'est pas protégée. L'ISS, même si elle est à 400 km d'altitude, elle reste encore un petit peu protégée par le champ magnétique de la Terre. En revanche, sur la Lune, on n'a pas cette protection. Donc le taux de radiation est plus élevé. Donc on passe de... On peut faire des missions d'un an à bord de l'ISS à 2 mois maximum pour l'instant en ce qui concerne la Lune.
Alors, à quelle hauteur elle se trouve la station spatiale ? On est à quelle hauteur ?
400 km, environ 400 km. Elle évolue. Il faut savoir qu'elle perd chaque jour plusieurs mètres d'altitude parce que même s'il n'y a pas d'air, il y a un petit résidu d'atmosphère. Et si vous voyez une photo de la station spatiale internationale, elle n'est pas profilée comme une voiture de sport. Donc, elle perd un petit peu d'altitude en se frottant contre les très faibles restes d'atmosphère qu'il y a. Donc régulièrement, on rehausse l'altitude de l'ISS avec des vaisseaux cargo qui sont amarrés à l'ISS, mettent en marche leur propulsion, ça reprend de la vitesse et ça remonte. Donc on a environ 400 km d'altitude, mais attention, c'est 28 000 km/h en revanche. C'est-à-dire qu'elle tourne autour de la Terre à 28 000 km/h.
Alors, dans la station spatiale, on fait aussi des expériences sur le médical. Qu'est-ce qu'on étudie exactement ? On essaye de trouver des nouveaux médicaments, par exemple ou...
Oui. Alors, on ne fabrique pas des nouveaux médicaments, mais à bord de la station spatiale internationale, on étudie des pistes pour des nouveaux médicaments. Il y a plusieurs choses qui permettent de le faire. D'abord, les astronautes eux-mêmes, ayant une altération de leur santé, parce qu'ils sont dans un environnement en apesanteur et avec des radiations, on étudie de très près comment leur métabolisme évolue, parce que ça permet d'étudier, en gros, si vous voulez, c'est un vieillissement accéléré. Et ce vieillissement, en gros, il le compense quand ils reviennent sur Terre. Donc là, on a des cobayes extrêmement utiles pour faire avancer la science médicale. Ensuite, pour être un petit peu plus technique, dans l'espace, quand vous faites, par exemple, certaines cellules, vous faites des cultures de cellules, ça se passe plus vite là-haut par rapport à sur Terre. Donc, vous avez une accélération. Et aussi, pour les médicaments, plus particulièrement, il faut savoir, quand vous faites des protéines sur Terre, ce qu'on appelle des cristaux de protéines, la gravité empêche ces cristaux de protéines d'avoir une certaine taille. Or, là-haut, il y a plus ce problème-là. Et donc, les cristaux de protéines sont beaucoup plus grands et on les étudie plus facilement. Vous allez me dire, bon, c'est gentil, concrètement, à quoi ça sert ? Un des effets qu'on recherche là-haut, c'est faire des médicaments avec moins d'effets secondaires. Et on s'est rendu compte que la forme de la molécule avait beaucoup d'importance. Et la forme de la molécule, on l'étudie grâce aux cristaux de protéines. Voilà, c'est juste pour vous montrer un exemple sur lequel pointu que j'ai un petit peu compris, mais c'est pour vous dire que c'est une science extrêmement complexe et pointue, dont les bénéfices viendront, ça se chiffre en années, peut-être même en décennies. Mais on a déjà progressé, notamment sur certaines molécules pour traiter certains cancers. Soyons très clairs, on ne fabrique pas là-haut le médicament, mais en revanche, le résultat de ce qui est fait là-haut, c'est comme le résultat dans un laboratoire pharmaceutique. On a une étude, on se dit, tiens, c'est vers cette direction-là qu'il faut aller. Et des années plus tard, on a une idée d'un médicament qui après passe, bien sûr, toutes les étapes de validation d'un médicament avant d'être utilisé.
D'accord. Est-ce qu'on fait de la recherche pour les vaccins aussi, ou c'est uniquement concentré sur le médicament pour traiter des maladies diverses ?
À mon avis, c'est un petit peu tout, parce que honnêtement, c'est-à-dire que parfois c'est indirect. C'est-à-dire quand vous étudiez la réaction de certaines cellules à des produits, c'est pas forcément pour un médicament précis, c'est que vous comprenez mieux le mécanisme de la cellule, et quand vous comprenez mieux le mécanisme de la cellule, vous comprenez mieux comment mettre certains médicaments, peut-être vaccins, etc. On en est aujourd'hui, par exemple, dans la science médicale à étudier l'ADN, c'est-à-dire qu'on arrive à faire des prélèvements ADN à bord de l'ISS et étudier l'ADN. Il y avait notamment une étude assez fascinante où la NASA a profité du fait d'avoir deux astronautes qui sont des jumeaux. Il y en a un qui est allé en mission longue de presque un an, l'autre qui est resté au sol, et ils ont comparé l'ADN. Et ils ont vu que l'ADN évoluait à cause des radiations et qu'après, il a eu un effet inverse de réparation. Et ça, ça a été étudié. Donc, on comprend un petit peu mieux comment ça fonctionne. Donc, je peux pas vous dire oui, il y a une étude sur le vaccin ou il n'y a pas, mais il y a 200 expériences en permanence. Donc, je ne serais pas étonné qu'il y a des études là-dessus à bord de l'ISS.
Alors, une question pour nos auditeurs, justement, pour qu'ils doivent se poser, c'est la suivante. C'est justement quand on fait des médicaments, pourquoi est-ce que les résultats sont meilleurs dans l'espace, en antigravité, pour la recherche médicamenteuse par rapport à la Terre où on est soumis à la gravité?
Alors, je sais pas si les médicaments agissent mieux là-haut, mais parfois certains agissent différemment. Ce qu'il y a là-haut, c'est que, étant donné qu'on est en impesanteur, vous avez les réactions chimiques ne sont pas écrasées par la gravité terrestre. Donc il y avait le cas des protéines que je vous citais. On fait des cristaux de protéines beaucoup plus gros, donc on étudie mieux les molécules. Et aussi, certaines molécules sont fabriquées de façon plus pure, en quelque sorte, justement grâce à l'impesanteur. Mais c'est là où il y a un souci, c'est-à-dire que on sait que certaines choses se fabriquent mieux. C'est-à-dire on a des produits, y compris pharmaceutiques, plus efficaces, plus purs, du fait qu'il n'y a pas de gravité qui écrase le processus chimique de fabrication. Il y a aussi certaines cellules qu'on cultive mieux là-haut. Mais pour l'instant, le problème, c'est d'arriver à l'appliquer. L'ISS est un laboratoire. Vous n'allez jamais pouvoir fabriquer dans l'ISS la quantité de médicaments nécessaires à traiter les gens au sol. Donc pour l'instant, l'ISS, c'est on étudie des pistes et qu'on appliquera après plus tard sur Terre. Maintenant, il y a des projets, et là on parle des projets à long terme, c'est-à-dire des échéances de décennies, qui consistent à dire que pour certains médicaments précis, on pourrait faire des unités de production automatisées dans l'espace. Mais ce ne sera pas, probablement pas à bord de l'ISS, ça pourrait être des modules automatiques. Et il y a eu des essais concrets qui ont été faits par des sociétés commerciales, notamment une américaine, qui a envoyé dans l'espace une petite unité de fabrication d'un antiviral qui est notamment utilisé pour le traitement du HIV et c'est revenu sur Terre, automatique, hein, là il n'y a personne qui intervient, il n'y a pas d'astronaute, et ils se sont rendus compte que l'antiviral qui était connu sur Terre, on sait le fabriquer, mais quand il était fabriqué dans l'espace, il était plus pur, donc plus efficace. C'est une des pistes pour l'avenir. Mais pour l'instant, il n'y a pas de médicaments qui viennent directement de l'espace. C'est des idées de médicaments qui viennent de l'espace, mais on ne consomme pas pour l'instant, en tout cas pas immédiatement, de médicaments fabriqués dans l'espace. Mais peut-être que ça viendra.
D'accord. Alors une autre question qui n'a rien à voir avec les recherches médicales. Quand les astronautes sont des fois amenés à sortir de l'ISS pour faire des réparations, comment on peut appréhender ce genre de choses, parce que c'est quand même compliqué. Ils sont véhiculés, ils sont comment ils réparent dans l'espace par exemple. Il y a une avarie, comment ils font pour réparer?
Alors, quand on sort dans l'espace, on sort avec un scaphandre. Et en fait, un scaphandre, c'est un mini-vaisseau spatial qui a la forme d'un être humain, pour le simplifier. Donc, vous avez la partie combinaison qui vous isole du vide spatial avec plusieurs couches, notamment en cas de micrométéorite, c'est-à-dire des petites poussières qui pourraient taper pour éviter que ça déchire la combinaison. Et vous avez le sac à dos qui, en gros, est le système de support vide. Dedans, il y a l'oxygène, mais il y a aussi la circulation d'un liquide qui va vous maintenir à la bonne température. Parce que dans l'espace, au soleil, il fait potentiellement très chaud, et à l'ombre, il fait potentiellement très froid. Je dis potentiellement parce qu'en fait, vous savez, si vous êtes sur la plage, vous mettez sous un parasol, vous dites « Ah, il fait quand même plus frais sous le parasol. » Oui, mais l'air autour de vous, il est quand même chaud. Mais dans l'espace, il n'y a pas ça, il n'y a pas d'air. Donc en fait, quand vous êtes à l'ombre, c'est moins 128 degrés. Quand vous êtes au soleil, potentiellement, ce qui est au soleil peut monter à 120 degrés. Mais la combinaison spatiale, il fait avec des matériaux tels et avec une circulation de fluide dedans, pour répartir cette charge thermique et éviter qu'on ait très froid d'un côté, très chaud de l'autre. C'est très technique. Il faut savoir qu'une sortie spatiale, c'est considéré comme une mission dans la mission. C'est extrêmement fatigant. quand ils sortent, généralement, c'est pour 6 à 7 heures pour réparer, puis ils font du bricolage. Hein. Il y a des perceuses, des outils, etc. Ils appliquent des méthodes, ils suivent, on va dire, un programme de travail très précis avec des gens au sol qui les assistent. Mais il faut savoir que pour être capable de faire une sortie spatiale pour réparer l'ISS dehors, tout simplement pour l'entretenir, c'est quasiment un an d'entraînement au sol avant. Côté NASA, c'est très clair, quand les gens qui vont partir dans l'ISS, s'ils veulent faire des sorties extravéhiculaires, on ne dit pas « tiens, envie de faire une sortie, très bien, on t'apprend ». Non. Les gens arrivent à Houston, il y a une grande piscine, on les met dans des scaphandres et ils répètent des sorties spatiales. Et là, chaque entraînement est noté, comme à l'école. Et ne font les sorties spatiales que ceux qui ont les meilleures notes. C'est très très clair. On ne joue pas avec ça. C'est potentiellement dangereux si on fait des bêtises. Il s'agit quelque part pas de juger, il s'agit juste de prendre ceux qui se sont montrés les meilleurs, point barre. Voilà. Et les sorties spatiales, c'est un peu comme la plongée sous-marine, ça se fait à deux. On ne fait pas des sorties spatiales seules, parce que si quelqu'un a un problème, il faut que l'autre collègue puisse intervenir.
D'accord, effectivement. Oui, c'est vrai que c'est assez délicat. C'est pas une sortie comme une sortie, on sort de la maison et on répare. Il y a tout un protocole, je suppose.
Exactement.
Voilà, tout à fait.
Ouais, notamment, on leur fait respirer de l'oxygène pur pour qu'ils éliminent l'azote dans le sang. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu l'inverse des plongées sous-marines. Vous savez, dans les plongées sous-marines, on parle des paliers de décompression. Quand les plongeurs vont profond, ils peuvent aller assez vite, profond, ils prennent plus de pression, et puis quand ils remontent, la pression va diminuer, en fait, ils retrouvent la pression du niveau de la mer, et il ne faut pas faire trop vite, sinon on a la fameuse ivresse des profondeurs. Et en fait, une sortie en scaphandre, c'est l'inverse. C'est-à-dire, dans l'ISS, la pression atmosphérique est à peu près celle au niveau de la mer sur Terre. Mais quand ils sortent, dans le scaphandre, c'est beaucoup plus faible, c'est environ la moitié, voire un tiers, selon les réglages. Et donc, en fait, les paliers de décompression, ils les font avant de sortir. C'est-à-dire, ils vont respirer de l'oxygène pur pour purger l'azote du sang, qui est le plus grand risque en cas de décompression. Mais ça a un avantage, c'est que quand ils sont dehors, s'ils doivent revenir très vite, ils n'ont pas de palier de décompression à faire. Ils peuvent rentrer vite dans le sas, on ferme le sas, et on revient à une atmosphère, à une atmosphère comme sur Terre, très rapidement. Donc voilà, c'est un petit peu l'inverse, mais la procédure est similaire.
D'accord. Alors, on va faire une pause musicale, Olivier, pour nos auditeurs. On va passer une musique de Apollo 13, le film à l'Apollo 13, justement, c'est en rapport avec l'émission. Et puis, très bon film, justement. Et on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Et voilà, c'était la musique d'Apollo 13. Alors, on est aujourd'hui en direct pour les auditeurs qui nous rejoignent dans l'émission Les Portes de la Connaissance avec Olivier Sanguy, qui est responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace à Toulouse. Et dans la seconde partie de l'émission, on va aborder un petit peu les voyages sur la Lune, parce qu'il est prévu qu'on aille installer des bases, qu'on s'installe, qu'on explore un peu plus notre Lune, qui est pour l'instant, je dirais, un astre qui est connu parce qu'on le voit en bas sur la Terre, mais qui est quand même extrêmement mal connu. Enfin, on va voir ça avec Olivier. Et après, on fera un voyage pour aller peut-être voir comment on peut aller sur Mars. Alors, Olivier, qu'est-ce qu'il en est de la Lune exactement ?
Ben, la Lune, ça reste comme pour Apollo 13 qu'on vient d'entendre, ça reste toujours très difficile d'y aller, quoi qu'on puisse croire. Je voudrais juste dire, puisqu'on a écouté la très belle musique de James Horner du film Apollo 13, si vous aimez vraiment le spatial, cherchez Apollo 13 en DVD ou en Blu-ray avec le commentaire de Jim Lovell, qui était le capitaine de la mission, parce que vous pouvez regarder le film avec Jim Lovell en personne qui vous commente le film. Et c'est rempli d'anecdotes. C'est vraiment extraordinaire de voir ça. Il comprend très bien que c'est un film qu'il a fallu un petit peu tordre la réalité. Il rétablit, mais sans jamais jouer les professeurs. Et surtout, on se rend compte à quel point c'est extrêmement difficile d'aller vers la Lune. Et ça, c'est toujours le cas. Parce que vous savez, parfois, on entend dire « Oui, mais comment ça se fait ? On y est allé en 69, on a du mal à y aller. » Ben oui, mais parce qu'en fait, c'est toujours extrêmement compliqué d'aller vers la Lune. C'est à 400 000 km. C'est 1000 fois plus loin donc que la Station Spatiale Internationale. Il faut quitter la sphère d'influence principale de la Terre pour tomber dans la sphère d'influence gravitique de la Lune. Il ne faut pas se louper dans les calculs. La Lune, c'est un environnement qui est extrêmement dur, puisqu'on retrouve les moins 120, moins 180 degrés à l'ombre, les plus 120, plus 180 au Soleil. Se poser sur la Lune, c'est extrêmement compliqué, parce que parfois on oublie une chose, sur la Lune, vous n'avez pas d'atmosphère. Donc les parachutes, les ailes, tout ça, vous oubliez. En fait, vous tombez vers la Lune, et ce sont les propulseurs de votre vaisseau qui freinent cette descente. Donc la marge d'erreur est extrêmement faible et c'est pour ça que c'est aujourd'hui ça reste difficile. En plus, on y va pour moins cher. Lorsqu'on est allé sur la Lune, les Américains, lorsqu'ils sont allés, il y avait les Russes, les Soviétiques à l'époque, qui ont essayé de faire la même chose. Ils ont aussi construit une fusée énorme de 100 mètres de haut, c'était donc la N1. On l'a un peu oublié ça. Le budget de la NASA représentait plus de 4% du budget américain, du budget fédéral. Aujourd'hui, c'est 0,6%. Et à l'époque, la NASA ne faisait que ça, quasiment. C'est-à-dire, ne faisait qu'aller vers la Lune. Là, aujourd'hui, la NASA, c'est une mission martienne robotique, c'est l'observation de la Terre, c'est de la recherche, etc. Donc, c'est pour ça que c'est long et c'est difficile. Donc, par rapport à Apollo, il y a un truc qui restait, qui est toujours le même. Ça reste extrêmement difficile et potentiellement très dangereux.
Alors, est-ce qu'on veut y installer des bases ?
Oui, alors ça... Alors, là, c'est un sujet intéressant que vous soulevez, là, parce qu'on est en plein dans une sorte d'instabilité programmatique côté NASA. Le programme Artemis actuel, il a été initié lors de la première mandature de Donald Trump. C'est lui qui a lancé, parce que, en fait, la NASA, ça fait depuis Apollo qu'elle a envie de revenir sur la Lune. Mais politiquement, il n'y a jamais eu vraiment le soutien. On se rappelle que George W. Bush, Bush fils, avait lancé un programme qui s'appelait Constellation, qui a été annulé par le président Obama. Donc, c'est un peu le yo-yo. Puis bon, Donald Trump a lancé. Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il y a eu alternance politique avec le président Biden, Artemis n'a pas été annulé. Ce qui montre d'ailleurs qu'il y a un impératif géopolitique qui est présent. Parce que on va pas faire de la politique politicienne, mais c'est pas mentir que de dire que politiquement, Biden et Trump, c'est pas le même camp, vous voyez. Et donc, pour que quelque chose d'aussi marqué par Trump, parce que quand Trump l'a lancé, il a dit « Ouais, je lance la Lune, ça va être extraordinaire, etc. » Et pour que ça résiste à l'alternance politique, ça prouve qu'il y a une volonté qui est au-delà de juste faire un coup politique. Donc aujourd'hui, le programme Artemis continue, mais il y a des hésitations, notamment, il y avait programmatiquement, normalement, on doit faire une station autour de la Lune, à laquelle l'Europe participe, parce que je rappelle qu'Artemis est un programme international, il y a la NASA, oui, mais il y a l'Agence spatiale européenne, qui est le partenaire de premier plan, puis il y a aussi l'Agence spatiale japonaise, l'Agence spatiale canadienne, et on l'oublie un petit peu, il y a aussi les Émirats arabes unis. Donc il doit y avoir une station autour de la Lune, ça se passe comment ? La fusée SLS, peut-être celle qui va décoller pour Artemis 2 prochainement, va envoyer la capsule Orion avec un module de service européen, ne l'oublions pas. On s'accroche à la station autour de la Lune, la Gateway. Sur la Gateway, il y a un atterrisseur lunaire. L'atterrisseur lunaire se pose, discours, planté de drapeau pour la première mission, mais surtout beaucoup de science. Et après, on revient vers la station, on revient dans la capsule Orion, on rentre sur Terre. Mais aujourd'hui, maintenant, comme vous le dites, il y a une évolution dans le programme, notamment le SLS semble être mis de plus en plus de côté, hein, la grande fusée, pour des lanceurs privés, qui restent à définir. Et plutôt que faire une station autour de la Lune, on a l'impression que maintenant, la NASA voudrait plutôt s'orienter vers une base au sol, un peu plus classique. Donc ben, ça, on va voir, parce que, je dirais, les déclarations d'intention, c'est bien, mais après, il faut le matériel, il faut l'architecture, et il faut les budgets. Et ça, ça reste quand même soumis, même s'il y a eu continuité malgré sur l'alternance politique, ça reste soumis aux volontés des votes. Il ne faut pas oublier que le budget de la NASA, il est voté chaque année par le Congrès américain, par les élus, et les élus ne votent pas le budget d'un coup. Ils votent poste par poste. C'est-à-dire que chaque année, les élus américains sont capables de dire « Ah, ben ça, non, on ne veut plus, pof, ça s'arrête ». Et c'est déjà arrivé.
D'accord, ah oui, effectivement. Oui, c'est vrai que, oui, on ne pense jamais à ça, en fait. On pense à la conquête spatiale, à ce qu'il se passe dans l'espace, mais on ne pense pas aux budgets qui sont votés. Et c'est vrai que ça reste, on reste dépendant des décisions politiques, en fait.
Complètement, complètement, puisque une grande partie de l'initiative spatiale, alors certes, il y a le privé qui fait de plus en plus de choses, mais en tout cas pour les budgets lunaires, il y a besoin de l'engagement de l'État. Alors, pour la NASA, on parle de 22 à 26 milliards de dollars par an. Ça semble énorme comme ça, mais je rappelle, c'est juste 0,6% du budget fédéral américain, ce qui veut dire que tout ce qui est, et c'est normal, attention, social, santé, recherche autre et militaire, bien sûr, c'est très largement au-dessus, mais m'empêche que, et c'est déjà arrivé, les politiques peuvent dire, ben non, on n'a plus envie, on met plus les sous, et c'est fini. Alors après, c'est peut-être une passe d'armes entre la Maison-Blanche et le Congrès, hein, puisque notamment là, la Maison-Blanche voulait réduire le budget de la NASA beaucoup plus fort, et le Congrès a dit, ah non, là, ça va être un peu l'inverse, ils ont dit, ah non, non, on maintient un peu les programmes scientifiques, sinon il ne va plus rien nous rester, voilà. Donc il y a cet aspect politique qui est présent. Là, l'aiguillon politique côté américain, c'est que les Chinois, eux, ont un programme qui est assez clair depuis des années. C'est-à-dire, il n'y a pas eu des variations d'architecture comme on a vu du côté américain. On pense qu'ils vont faire une mission style plutôt Apollo d'ici 2029. Et c'est pour ça que les Américains, surtout côté républicain, veulent être sur la Lune avant. Ils veulent revenir, hein, parce qu'ils y ont déjà été. Mais c'est une question de géopolitique. C'est-à-dire que dans le camp républicain, on avance que si la Chine se pose sur la Lune avant que les États-Unis y soient revenus, il y aura un problème d'image diplomatique, de préséance mondiale, puisque les États-Unis, depuis l'histoire de la première conquête de la Lune, depuis l'exploration spatiale, les États-Unis ont une théorie qui s'appelle la space dominance, et qui est très claire. Vous ne pouvez pas être la première puissance mondiale si vous n'êtes pas premier dans l'espace. Et comprenez bien, premier dans l'espace. Il n'y a pas de deuxième place. La deuxième place ne sert strictement à rien dans cette théorie politique.
D'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour les voyages sur Mars? Parce que Mars, depuis les années 70, déjà Wernher von Braun pensait à des voyages sur Mars déjà à l'époque. Et la mission était irréalisable pour des coûts de budget énormes et parce qu'on n'était pas prêt, on n'avait pas la technologie suffisante pour pouvoir y aller. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vous dirais, c'est amusant que vous citiez les années 1970, parce qu'en 1970, on disait couramment, Mars, c'est dans 20 ans. Et en fait, Mars, c'est dans 20 ans depuis 1970. Donc on voit un petit peu où est le souci. Il y a deux soucis dans Mars. Il y a en effet une faisabilité technologique. Bon, moi, je ne suis pas ingénieur. En tant que journaliste, j'écoute des gens et j'ai des gens qui me disent, en fait, on pourrait le faire, il manque juste la volonté politique et l'argent. La volonté politique et l'argent, déjà, c'est pas rien. Et d'autres qui disent, non, de toute façon, technologiquement, on n'est pas prêt. Moi, j'entends les deux. OK. Donc, je ne juge pas. J'entends. J'ai les deux versions. Pour l'instant, en tout cas, le choix qui a été fait côté américain et NASA, y compris d'ailleurs côté chinois, parce que la Chine regarde de très près la possibilité de faire des missions martiennes habitées. Ils ont déjà fait une mission martienne automatique qui est un succès, avec un petit rover. D'ailleurs, à la Cité de l'espace, on a la maquette taille réelle du rover chinois Zhurong. Je crois que c'est la seule maquette taille réelle de ce rover qui existe en Europe. Bon. Donc ils regardent ça eux aussi. Et l'idée principale, c'est aller sur Mars. Si à la limite on pourrait le faire, c'est trop tôt. Le taux d'échec est potentiel est trop élevé, en tout cas. C'est ça qui a été choisi. Il y a des gens qui vous diraient l'inverse. Et donc la Lune, c'est le terrain d'entraînement pour aller sur Mars. Parce que la Lune, bon, c'est à 4 jours de voyage. Mars, c'est 6-8 mois. Mais c'est 4 jours de voyage, mais déjà, on est obligé d'être beaucoup plus autonome quand on va sur la Lune que lorsqu'on fait une mission ISS. Sur la Lune, on pourra tester une technologie, enfin un principe technologique, pour l'instant, on n'applique quasiment pas, qui est l'ISRU, c'est-à-dire In Situ Resource Utilization, utilisation des ressources locales. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que si on allait sur Mars façon Apollo, c'est-à-dire vous emportez le carburant pour y aller, mais le carburant aussi pour revenir, toute la nourriture, tout l'oxygène, vous obtenez des vaisseaux extrêmement massifs et ça devient très compliqué. Avec l'ISRU, la logique, c'est si je vais sur Mars, tenez-vous bien, je pars, mais je n'ai pas le carburant du retour et je n'ai même pas l'oxygène pour faire la mission. Parce que le carburant du retour et l'oxygène, je vais le fabriquer sur place. Extraire de l'oxygène de l'atmosphère martienne, c'est facile. Enfin, entre guillemets, hein. L'atmosphère martienne, c'est du CO2. Ben oui, vous avez du carbone et de l'oxygène. Donc hop, vous extrayez l'oxygène. Et à partir de l'atmosphère martienne, par une réaction chimique très simple, que je ne saurais pas vous décrire, c'est le cours de chimie, vous avez oublié, vous fabriquez du carburant pour fusée. Alors bien entendu, quand on va partir, on aura envoyé les usines automatiques avant, et une fois qu'on aura le carburant et l'oxygène, là on va y aller. Mais c'est révolutionnaire comme façon de penser les missions spatiales. Et on pense que ça, d'abord, eh ben, on va le tester sur une destination beaucoup plus proche, qui est moins, je dirais, risquée en cas de souci, c'était la Lune. Voilà. Donc, et puis la Lune a un intérêt scientifique en tant qu'elle. Pas oublier qu'étudier la Lune, parce que ça sort parfois un petit peu de la tête, oui, mais pourquoi on s'occupe de la Lune, on a tellement à faire sur Terre. Mais oui, mais étudier la Lune, c'est mieux comprendre la Terre. Voilà, c'est aussi vrai que ça, parce que la Lune, finalement, c'est un morceau de Terre qui a été arraché par une collision il y a plus de 4 milliards d'années, et c'est un peu un témoin de ce qu'était la Terre il y a 4 milliards d'années, donc ça permet de mieux comprendre aussi notre planète.
Oui, puisque la Lune est un disque d'accrétion qui s'est formé quand il y a eu une collision entre une protoplanète et la Terre, et effectivement, ça a formé la Lune. Donc voilà, qu'est-ce que on prépare en fait, on prépare nos missions sur Mars en prenant comme test la Lune en fait.
Oui, voilà, c'est cette démarche-là qui est défendue par la NASA depuis maintenant quelques années. D'ailleurs, c'est le programme Artemis, comme vous voyez certains papiers Artemis, en bas vous voyez Moon to Mars. Donc c'est la Lune pour Mars, la Lune pour aller vers Mars. Pour l'instant, c'est la logique qui est avancée, ça semble plutôt tenir debout. Sur la Lune, il est vrai que concrètement, on peut tester, alors probablement par lors des premières missions, mais certains principes dits ISRU, c'est-à-dire qu'on pense que sur la Lune, il y a de la glace d'eau dans le sous-sol. Alors pas forcément, il ne faut pas imaginer des jolis petits cubes de glace qui vont être pris, c'est probablement mélangé au sol. Donc l'idée, c'est peut-être d'arriver à extraire ce qu'il y a dans le sous-sol. Et du moment que vous avez de la glace d'eau, c'est extrêmement intéressant parce que vous avez de l'eau. D'abord, ça peut servir à des tas de choses. Bon, avant qu'on fasse boire l'eau de la Lune aux astronautes, il va y avoir beaucoup d'études, évidemment. Mais surtout, l'eau, c'est quoi? C'est H2O, c'est-à-dire c'est de l'hydrogène et c'est de l'oxygène. L'oxygène, ça se respire. À nouveau, beaucoup d'études avant qu'on fasse respirer cet oxygène-là. Mais avec de l'oxygène, vous pouvez alimenter des piles à combustible. Et surtout, l'hydrogène et l'oxygène, c'est du carburant fusé, carrément. Et je vous ferai remarquer qu'un des atterrisseurs lunaires envisagés par la NASA pour Artemis, qui est le Blue Moon, donc qui est fabriqué par la société Blue Origin de Jeff Bezos, eh bien, le Blue Moon, il fonctionne avec de l'hydrogène et de l'oxygène. Et très officiellement, ils disent, comme ça, si dans le futur, on arrive à extraire de l'hydrogène et de l'oxygène du sol lunaire, eh bien, on pourra refaire le plein de l'atterrisseur lunaire sur place. Donc c'est la logique ISRU, utilisation des ressources locales. Est-ce que ça va pouvoir se faire? Parce que là, si vous voulez, c'est le passage de l'idée à l'opérationnel de tous les jours. Et c'est là où ça devient compliqué. Vous le savez, à la radio, c'est la différence qu'il y a. Ah, j'ai une super idée pour une émission. Et puis après, bah, pour faire l'émission, bah, il faut des journalistes, il faut étudier, il faut des techniciens, il faut des micros, il faut une table de mixage son, il faut un invité, il faut des techniciens compétents, il faut placer ça sur les ondes, etc. Et donc, on est dans cette démarche-là entre l'idée, on pense qu'elle est bonne, elle tient debout, à sa réalisation, même pas technique, opérationnel, parce que vous pouvez avoir un principe technique qui fonctionne, mais sur le plan opérationnel, vous vous rendez compte, ça n'arrête pas de tomber en panne, ou il n'y a pas assez de concentration de glace d'eau dans le sol pour que ça marche, etc. Donc c'est ce chemin-là qu'on est en train de faire, notamment, entre autres, avec le programme Artemis.
D'accord. Quelles sont les complications techniques pour aller sur Mars? Parce que le voyage est long, 8 mois. On est soumis aux radiations solaires, on est soumis à des tas de choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sur Terre. Quelles sont les complications qui nous empêchent pour l'instant d'y aller?
Alors, on va commencer par l'équipage, on va être un petit peu égoïste, on va penser aux humains. Il y a, comme vous dites, les radiations. En effet, le taux de radiation d'un voyage vers Mars, et c'est le taux de radiation d'une mission spatiale le plus élevé envisagé à l'heure actuelle. Il y a beaucoup il y a un petit peu des querelles, entre guillemets, pour être méchant, de spécialistes. Les doses, non, c'est bon. D'autres qui disent, ah, attention, on est vraiment limite, ou même on les envoie à la mort. Donc, on est dans les débats, si vous voulez, d'expertise. Est-ce qu'on doit les protéger? Oui, mais si vous protégez, parce que vous faites un vaisseau qui est complètement blindé, on va dire, et les astronautes risquent rien. Mais il va être tellement massif qu'il ne décollera pas. Donc il y a des arbitrages en fait à faire, et pour l'instant on est en train de travailler sur ces arbitrages. Donc il y a cet aspect de santé, l'aspect de santé qu'on a évoqué juste avant, et c'est pourquoi il y a des missions à bord de l'ISS qui étudient l'altération de la biologie, voire même du comportement humain lorsqu'on reste très longtemps dans l'espace, donc ça on fait attention. Il y a des aspects psychologiques, il y a par exemple des missions de simulation qui sont faites régulièrement sur Terre. Vous avez souvent chaque année, vous avez par exemple des étudiants de l'ISAE, Supaéro de Toulouse, qui vont faire une simulation de mission de 15 jours. Et si vous voulez, dans ces missions, ils s'amusent à faire des équipages que féminins, que masculins, moitié féminin, moitié masculin, dominance masculine, dominance féminine. Ils mélangent l'origine des gens pour voir sociologiquement comment ça se passe. Parce que si on fait une mission vers Mars, c'est 2-3 ans. Si les gens commencent à se disputer au cours de la mission, ça va être très compliqué. Mais il faut pas mettre de côté cet aspect psychologique. Et puis, il y a l'aspect opérationnel. Et la barrière principale, outre les modes de propulsion, comment se poser, etc., c'est la fiabilité. C'est-à-dire que quand on s'éloigne autant de la Terre, sur des durées aussi longues, il ne faut pas seulement une technologie qui fonctionne, il faut une technologie qui fonctionne dans le temps. C'est-à-dire sur 3 ans. Il faut être sûr que ça va marcher. Parce que Apollo, quand on a un problème, on écoutait la musique d'Apollo 13. Apollo 13 était sur une trajectoire quasiment de retour libre, c'est-à-dire qu'il faisait le tour de la Lune, il revenait vers la Terre, et ils sont revenus en quelques jours. Quand vous irez vers Mars, il n'y aura pas de demi-tour possible. Ce sera totalement impossible. Et au bout d'un moment, en plus, on se rappelle du fameux moment Houston, nous avons un problème, qui d'ailleurs traduit exactement, c'est Houston, nous avons eu un problème. Les communications vont avoir des minutes de délai, voire jusqu'à 10-20 minutes de délai. Donc c'est Houston, nous avons un problème, bah, la réponse elle arrive 20 minutes après. Donc il faut augmenter l'autonomie et la fiabilité du matériel. On parle notamment aussi d'imprimante 3D, pourquoi? Bah, parce qu'on ne peut pas emmener tout en quadruple exemplaire, donc peut-être qu'on fabriquera les pièces de rechange nécessaires par une imprimante 3D si on en a besoin. Et d'ailleurs, sur l'ISS, on est en train de tester, ça vient d'ailleurs d'Airbus, je crois, une imprimante 3D métal pour fabriquer des pièces en métal.
D'accord. Effectivement. Est-ce que, une question qui me vient à l'esprit, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de construire comme on a fait pour l'ISS, qu'on l'a construit morceau par morceau dans l'espace, d'apporter les morceaux du vaisseau dans l'espace et de le construire dans l'espace pour avoir un vaisseau plus gros et pour éviter de décoller du sol?
Oui, vous avez raison, c'est en effet parmi les architectures principales de mission qui sont étudiées, c'est clairement, plutôt qu'imaginer le gros truc qui va partir, on va assembler le vaisseau. Parce qu'en fait, un vaisseau martien, c'est presque un triple vaisseau. Vous avez d'abord le vaisseau en lui-même qui permet le voyage. Donc c'est des modules d'habitation, des modules de stockage, nourriture, etc. Peut-être même une petite serre. Éclairé de façon artificielle, bien sûr, pour faire pousser des légumes frais et tout, parce que c'est assez important, la propulsion et tout. Ça, déjà, on peut le compartimenter en modules qu'on envoie au fur et à mesure, qu'on assemble sur orbite terrestre. Ensuite, il y a la deuxième partie, c'est le vaisseau qui amène les astronautes vers ce grand vaisseau et qui va leur permettre de revenir sur Terre après. En gros, c'est une capsule. Et vous avez, il ne faut pas l'oublier, le vaisseau qui va permettre de se poser sur Mars et d'en repartir pour faire un rendez-vous avec le gros vaisseau qui sera mis sur orbite martienne et qui permettra le voyage du retour. Tout ça, c'est modulaire. Et en effet, très souvent dans les scénarios de mission les plus sérieusement étudiés, on n'envoie pas un gros vaisseau depuis la Terre. En fait, on assemble quelque chose généralement autour de la Terre et on l'envoie vers Mars. Pour l'instant, c'est les architectures de mission principales avec la variante dont je vous ai parlé, qui maintenant est la variante principale, à savoir quand le vaisseau va partir, il ne va pas partir avec le carburant du retour, pour partir plus léger, on va dire. Et on va essayer de fabriquer une partie des ressources dont on aura besoin sur Mars. Bien évidemment, comme vous l'avez compris, on ne va pas prendre le risque de partir sans carburant et se dire on va essayer de le faire sur place. On aura probablement envoyé des engins automatiques avant sur Mars, mais beaucoup plus massifs que ce qu'on a envoyé jusqu'à maintenant, qui, eux, fabriqueront ces fameuses ressources. Ça fait, pour l'instant, c'est vers ça qu'on se dirige. Attention, c'est toujours des études théoriques. Il n'y a aucune mission habitée vers Mars programmatique de la NASA. C'est des préparatifs. C'est on réfléchit à la façon dont on va le faire. Il faut quand même se rendre compte que envoyer des hommes et des femmes sur Mars, on parle de dizaines de tonnes à poser sur Mars. Jusqu'à maintenant, la chose la plus massive qu'on ait posée sur Mars, c'est les rovers Curiosity et Perseverance. On a des maquettes taille réelle qui roulent hein, d'ailleurs à la Cité de l'Espace. Et c'est une tonne. Vous voyez, il y a un bond énorme à faire.
Effectivement, c'est vrai que on n'imagine pas à quel point c'est compliqué. Et c'est on s'est dépassé un petit peu, se dépasser soi-même, parce que aller dans l'espace, c'est déjà compliqué. Aller sur une planète qu'on ne connaît pas, c'est encore plus compliqué. Et aller à une distance de la Terre qui est importante, c'est encore beaucoup plus difficile. Donc c'est vrai qu'effectivement, on a du mal à imaginer. Une dernière question, il nous reste 3 minutes d'émission que je voudrais aborder. C'est et sur Mars, comment on va y vivre?
Ben, on va y vivre probablement sur la première mission. Il y aura l'atterrisseur va servir d'habitat, un petit peu comme ça s'est passé avec Apollo. Peut-être qu'on fera après des bases. On va y vivre peut-être en exploitant les ressources locales pour une partie, mais ça ressemblera un petit peu à ce qu'on fait sur la Lune. Et quand on sortira, il faudra un scaphandre aussi. Mais surtout, on va vivre avec une plus grande autonomie. Sur la Lune, vous posez une question à Houston, ils vous répondent en une seconde, hein, puisque le trajet radio et tout, c'est une seconde aller, une seconde retour, c'est quasiment instantané. En revanche, sur Mars, ben, il faudra avoir une forte fiabilité des équipements et l'autonomie, parce que ben, quand il y aura une question, si elle est urgente, la réponse pourra mettre 20 minutes. Donc c'est vraiment ça va être une toute autre mission que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est là où il faut se rendre compte. Ces gens vont être dans une autre temporalité. Quand ils auront besoin d'une réponse, il faudra attendre 5, 15, 20 minutes.
Alors pour nos auditeurs, justement pour préciser ce que dit Olivier, quand vous émettez un message, il faut 10 minutes au message pour arriver sur la Terre. Il y a un temps d'analyse, le temps de répondre, et ensuite il y a le temps du retour. Donc ça fait au moins 25 minutes. Donc effectivement, c'est vrai que c'est... Voilà, effectivement. Olivier, merci beaucoup.
Je vous en prie, merci à vous.
Merci pour ce beau témoignage que vous nous avez fait, parce que c'est vrai que c'était un honneur de vous avoir à la radio, pour les auditeurs aussi. Effectivement, puisqu'on passe souvent des émissions scientifiques sur le thème des étoiles, puisqu'on avait eu de grands scientifiques des étoiles qui étaient venus sur le plateau. Merci infiniment, merci à tous. Je vous dis à la semaine prochaine. Surveillez bien sur les portes de la connaissance d'O2 Radio les émissions. Vous verrez la prochaine émission de la semaine prochaine. Et au mois d'avril, vous aurez de belles émissions qui sont prévues. Ne vous inquiétez pas. Voilà, merci beaucoup, merci Olivier, et merci. À la semaine prochaine. Voilà, au revoir. We'll be right back. les portes de la connaissance. Une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué.